Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle émission.
Bonjour.
Sur l'Évangile pour le couple. Et Maud, on se retrouve aujourd'hui avec un texte qu'on aime beaucoup, qu'on aime particulièrement. Puis en plus, c'est un des rares textes qui est vraiment 100% mariage.
Oui, puis en plus, il parle de vin. Et je crois que quand on est français, on apprécie tout particulièrement.
Ah oui, absolument, absolument. Alors, donc, vous avez compris, sans doute, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, que nous allons partir de l'Évangile de Cana. Maud, il faut rappeler que on est au tout début, c'est l'évangile qui va marquer le ministère, le début du ministère du Christ avec ses disciples, auprès de ses disciples et en présence de sa mère. Alors on va lire le texte. Alors, bien sûr, on va pas l'expliquer dans sa totalité, on va juste souligner tel ou tel point après. Mais d'abord, relisons ce texte.
Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Et ils n'avaient pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Mais sa mère dit au servant, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles pouvaient contenir chacune 100 ou 150 litres. Jésus leur dit, « Remplissez ces jarres avec de l'eau. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus dit alors, « Prenez, maintenant, et portez au responsable de la fête. » Le responsable de la fête goûta cette eau changée en vin, mais il ne savait pas comment on avait rempli ces jarres. Seuls les servants qui avaient pris l'eau le savaient. Alors il dit aux mariés, « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont gais, on donne le vin ordinaire. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est ainsi que Jésus fit le premier de ses signes à Cana en Galilée. Là, il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
Et voilà, le ministère de Jésus commence par une noce, comme l'Ancien Testament a démarré également avec une noce, si on peut dire, et un épisode conjugal. Et finalement, ce thème du mariage est un thème qui est constant dans toute la parole de Dieu. Et c'est le thème constant du parallèle entre l'amour de l'homme et de la femme, et le parallèle entre l'amour de l'homme et de Dieu. Et que c'est toujours une histoire parfois complexe, mais que quand le Seigneur vient, habiter cette relation, alors à ce moment-là, cette relation se dilate et croît et va en crescendo. Alors, tout ça pour introduire le fait qu'il y a deux points qu'on voulait soulever, Maud, dans ce commentaire de Cana, c'est que cet épisode de Cana nous montre parle en tout cas à tous les hommes de tous les temps, qu'ils soient croyants ou incroyants, car la présence et la rencontre de Jésus dans nos vies conduit à vraiment à envisager que Jésus vient mettre entre guillemets la révolution. C'est vraiment un texte révolutionnaire et c'est un texte profondément évangélique dans le sens d'une très très bonne nouvelle. Alors, voilà. Révolutionnaire et bonne nouvelle. Au-delà des aspects religieux, alors essayons d'aborder cette question d'abord révolutionnaire.
Voilà, donc je pense que la première constatation qui surprend à la lecture de ce texte, c'est que Jésus est invité à cette noce, d'accord, et la première chose qu'on nous dit sur la noce, c'est qu'il n'avait plus de vin, car le vin était épuisé. Donc ça, c'est la constatation de la société, de toute société humaine, qui te dit, tiens, quand tu te maries, profite bien de ta femme ou de ton mari pendant les premiers temps, parce que c'est le nirvana, vous êtes tous les deux hyper amoureux, c'est parfois même la passion, voilà, tout est merveilleux, et on a vraiment un désir de vivre l'un avec l'autre qui est fabuleux. Et puis, au fur et à mesure du temps, cette cet amour, ce vin de l'amour, vient à tarir, vient à s'épuiser.
Ou alors il devient un vin ordinaire, ou alors il est vin comme dans ces noces, il n'y avait plus de vin.
Donc voilà.
Voilà, la logique du monde, c'est un super bon vin, un nectar, un cru, puis après un vin ordinaire, un vin de table, et puis à un moment ou à un autre, il n'y a plus de vin.
Parfois c'est de la piquette au passage.
Parfois c'est de la piquette, voilà, etc. Alors bon, chacun après ses personnalités, etc. Mais ça dure, voilà, ça dure 3 mois, ça dure 3 ans, ça dure 30 ans. Mais à un moment, il n'y a plus de vin, ou alors c'est de la piquette.
Voilà, et puis c'est ce que nous disent aussi les psychologues, on reste amoureux 3 mois, 3 ans maximum. Voilà. Donc un jour, ce vin, disons spontanément, qui jaillit du cœur de l'homme et de la femme quand ils s'aiment, vient à tarir. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Et si Marie a remarqué qu'il manquait de vin, bon, c'est peut-être pas très perspicace, parce que je pense que ça devait se voir qu'il manquait du vin. Mais là où c'est perspicace, c'est qu'elle sait, elle, où aller chercher la solution. Et la solution, c'est le Christ. Elle va solliciter son fils pour lui dire, regarde, ils n'ont pas de vin. Non pas pour lui dire, bah oui, ils n'ont pas de vin, mais pour dire, je sais que tu peux faire quelque chose. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer?
Et c'est là, justement, où avec le Christ, et d'ailleurs le maître de la noce, comme nous dit le texte, constate que, mais tu changes, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Ça veut dire que, normalement, le bon vin est au début, selon le monde, tout le monde sert d'abord le bon vin, mais toi, ce n'est que maintenant que tu viens servir le bon vin. Donc ça veut dire que la loi du monde et la loi du Christ sont inverses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous faisons, quand nous accueillons Jésus au cœur de notre vie conjugale, de notre vie familiale, nous inversons la loi de l'amour du monde qui conduit tôt ou tard à avoir la piquette ou du vin de table et ou plus du tout de vin du tout.
Ou de l'eau, carrément.
Ou de l'eau dans notre couple. Et donc, on est très triste parce qu'on a eu beaucoup d'aspirations. Et voilà. Et qu'avec le Christ, c'est le contraire. C'est parce qu'il vient même transformer la flotte, ce qui est devenu la piquette ou la flotte de nos vies, nos relations, il vient le transformer en vin encore meilleur que le premier vin des noces. Donc, c'est une loi du crescendo d'amour, du crescendo de joie, alors que la loi du monde est une loi constante du décrescendo.
Voilà, et c'est pour ça qu'on voit ces couples qui ont vécu des années et des années ensemble et qui disent à quel point leur amour est tellement plus fort, plus savoureux, plus profond, plus intime. Il y a derrière ce vin, je dirais ce vin nouveau de la passion et de l'amour du début, vient se surajouter progressivement un vin beaucoup plus profond, beaucoup plus capiteux, qui est le vin de la durée et qui est donné par le Christ. Pas la durée simplement parce qu'on apprend à vieillir ensemble, ça n'a aucun intérêt, mais la durée qui va être justement remplie de cet amour profond que le Christ va nous donner l'un pour l'autre et qui n'est même pas possible à envisager quand on est ensemble depuis le début. On pense qu'on a le meilleur vin, mais non, il y en a encore bien meilleur derrière.
Alors, c'était tout ce qu'on a voulu souligner. Cana, c'est un texte subversif, révolutionnaire, qui va vraiment montrer combien c'est la logique du monde est complètement transformée. Et c'est le deuxième aspect qu'on voulait dire, c'est un texte profondément évangélique dans le sens de l'évangile, dans le sens du bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est une réalité qui donne une grande joie, et particulièrement pour les pauvres, pour les malades, pour les mal portants. Et les pauvres, les malades et les mal portants de l'amour, c'est tous ceux qui ont tant de difficultés dans leur vie conjugale, dans leur amour, dans leur relation. Vous en souffrez, vous goûtez de la piquette, même il n'y a plus d'eau, il n'y a que de l'eau, ou il n'y a que du vin de table, c'est un vin ordinaire, c'est un amour ordinaire, et allez, on s'emmerde.
Non. C'est charmant.
Voilà, et ben, c'est là où la bonne nouvelle existe, c'est que quand nous accueillons le Christ tel qu'il est, pas simplement les quelques valeurs de générosité, etc., mais quand nous accueillons vraiment le Messie, le Christ vivant, qui vient nous sauver, le Christ est Seigneur, alors notre vie peut être transformée et nous pouvons goûter une vie qui est bien meilleure. Ça, c'est une très grande bonne nouvelle qui peut réjouir le cœur de tout homme, croyant ou incroyant. s'il l'accueille.
Voilà, et ça crée donc une joie en nous qui est absolument extraordinaire. Et c'est vrai, Alex, on peut simplement témoigner que pour notre vie, à bout de 25 ans de mariage, on continue à découvrir comme l'amour peut s'approfondir et peut se bonifier, parce qu'il est poli, parce que poli par le temps, poli par tous ces temps d'échange, de dialogue, par ces temps de prière ensemble. Et tout ça, ça nous donne une complicité, une connivence bien plus grande et bien plus savoureuse que dans les premiers temps où on s'accrochait toutes les 5 minutes pour des incompréhensions, même si l'amour était très fort.
Et combien justement l'histoire de l'Église, les témoignages des uns et des autres montrent combien, quand le Christ est accueilli comme cela en plénitude, on peut goûter tellement plus ce trésor et cet amour en crescendo. Or, cet amour en crescendo, ce bonheur en crescendo, il correspond à nos attentes les plus profondes. Toutes les enquêtes d'opinion, toute la psychologie, le travail des psychiatres, etc., disent que vraiment, cet amour, cette fidélité, etc., est inscrit au plus profond de notre cœur. Hein, je crois qu'on a déjà cité le psychiatre Naouri qui disait, mais notamment l'adultère, la séparation, etc., c'est la chose la plus terrible qui soit pour un couple. Et donc voilà, c'est parce que nous avons l'aspiration la plus profonde à goûter ce bonheur en crescendo que le Christ est une très bonne nouvelle pour nous. Allez, on se retrouve tout de suite. Nous revoilà pour commenter cet évangile de Cana, cette expérience de Cana qu'on a vue révolutionnaire et profondément évangélique dans le sens bonne nouvelle, et grâce notamment, et on voulait y insister un petit peu maintenant, grâce notamment à l'invitation qui a été faite par Marie, et tout cela aussi a été introduit par le ministère de Saint Jean-Baptiste. Maud.
Oui, justement, je crois que c'est l'occasion pour nous d'insister sur ce rôle de Marie par rapport au ministère de Jésus, qui est un rôle, là, qu'on voit essentiellement prophétique, puisque c'est elle qui incite le Christ à transformer l'eau en vin. Et pour la tradition de l'Église, on a toujours vu dans cette parole de Marie une prophétie par rapport à ce vin eucharistique qui allait être le sang livré de son Fils. Donc, dans la tradition de l'Église, elle est le modèle de la femme par excellence. On pourrait dire le pôle féminin, comme on avait dit à la Genèse. Et elle nous enseigne par sa féminité beaucoup de choses dans notre vie, et notamment comment est-ce que le Christ peut intervenir dans notre vie.
C'est vraiment, Marie, et c'est important de le souligner, est vraiment une mère spirituelle qui vient, qui prie pour nous, qui intercède pour nous. Elle est épouse, elle est aussi mère, et donc, de par sa nature, de par son ministère, de par sa fécondité, de par son intercession, elle nous porte. Et donc, c'est très important pour une vie de couple, pour une vie de famille, de découvrir le visage de Marie. Alors peut-être que on voudrait insister sur des éléments, parfois un peu, on a des images un peu mièvres, etc. Nous, ce qui est important, c'est que la vie familiale est une vie très concrète. Et Marie, loin des images mièvres et un peu fleur bleue, c'est la mère de la foi, c'est la mère de l'amour. C'est une figure de femme, de mère, d'épouse, déterminée, qui est marquante par son courage, sa détermination, sa solidité dans la foi, dans les épreuves, même si jamais elle a un amour qui pétrit de tendresse, etc. Mais on sent la puissance de la force. Mais
déjà, quand on est mère, on sait très bien que cette toute jeune mère de 14, 15 ans, peut-être 17, qui part à dos d'âne, traverser son pays avec, à l'époque, des routes qui devaient certainement pas être très sûres, et sous le point d'accoucher, fallait un sacré cran pour faire ça sans sourciller.
Et puis après,
partir en Égypte avec un nouveau-né dans la catastrophe, parce que derrière...
Sous la pression des soldats d'Hérode
Il y a beaucoup d'exemples, je pense, dans la vie de Marie, où on peut réaliser que c'était loin d'être une vie de gravure. Hein. Elle n'était pas du tout dans la mièvrerie, elle n'était pas du tout dans le côté sucré de l'Évangile. Non, pas du tout. Marie était une femme extrêmement humble, certainement, mais extrêmement forte dans
courageuse,
sa foi.
Courageuse, forte, voilà. Avec une foi immense. Et puis, chose importante aussi, De voir cette docilité à l'Esprit Saint, mais je veux dire, moi j'aimerais avoir le quart du dixième, du millième, hein, de cette docilité qu'elle a eue, mais quand l'ange lui a parlé, quand il y a eu tous les événements, etc. Mais je veux dire, cette docilité, d'abord parce que elle a accueilli la vie en elle grâce au don de l'Esprit Saint, donc vraiment c'est pour ça que j'aime beaucoup, bien sûr elle est épouse de Joseph, mais elle est aussi épouse de l'Esprit Saint. Elle a une docilité, mais constante. Et Joseph, c'est pareil. Donc c'est vraiment, c'est la première charismatique de l'histoire.
Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est capable de discerner, à ce moment-là des noces, que oui, le ministère de Jésus, c'est le moment qu'il démarre. C'est maintenant que le Père l'appelle. Et c'est sur la sollicitation de Marie que vraiment va se déclencher la mise en route de ce processus, je dirais, d'annonce explicite de la bonne nouvelle, puisque déjà, depuis l'incarnation, nous étions déjà dans cette annonce.
Mais Marie, comme elle a le souci de la noce de Cana, elle a également le souci de notre noce à chacun. Et donc, à un moment, elle vient aussi nous susurrer à l'oreille, ton épouse ceci, ton enfant cela, ton mari, il se passe ceci, etc., etc. Donc, avec dans cette docilité de l'Esprit Saint, Marie est extrêmement présente, nous accompagne dans les choses les plus incarnées, les plus concrètes.
Voilà, à la croix, Jésus a justement confié Marie aux disciples, hein, on ne dit pas son nom, parce que justement le disciple c'est chacun d'entre nous, et à chacun d'entre nous le Christ nous dit « voici ta mère, donc prends-la pour mère ». Moi je sais, je peux partager ça simplement que plusieurs fois dans ma vie de femme, j'ai demandé à Marie conseil sur des choses très pratiques, je ne sais pas faire, je ne sais pas m'en sortir sur tel point, je ne me sens pas à l'aise, guide-moi, apprends-moi à être mère, à être femme. Et je sais qu'elle m'a répondu et j'ai trouvé en moi des ressources que je n'imaginais pas possibles. Et je pense qu'elle a ce charisme vraiment profond de nous enfanter chacun à notre mission, à notre vocation, à la plénitude de notre vocation.
I need you like the rain.
Ce que j'aime énormément, c'est l'humour aussi. Marie qui dit non plus de vin. Et Jésus qui dit, eh oh, t'es femme, il est pas l'heure encore, t'as pas vu l'heure. Et c'est pas grave, elle continue comme si de rien n'était. Elle va voir les serviteurs avec son culot, en plus hyper culotté, j'adore. Et elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. Et donc à un moment, Marie ou le Seigneur, etc., nous invite et dit, fais attention à ceci, cela, etc. Et nous on balance tout, on n'écoute pas. Et c'est pas grave, elle est là jusqu'à ce que on puisse entendre les choses. Donc mettons-nous vraiment à l'école de Marie, mettons-nous à l'écoute de Marie, parce qu'à travers elle, c'est l'Esprit Saint aussi qui parle, parce que elle est un héros de l'Esprit Saint, dans le sens qu'elle a porté l'Esprit Saint, elle a été témoin de l'Esprit Saint comme jamais, puisqu'elle a même été aussi, elle était avec les apôtres à la Pentecôte, dans le Cénacle. Elle était là, toujours cachée, toujours en réserve, etc. On la voit pas trop, mais à un moment, elle est toujours dans des actions déterminantes. Voilà, c'est pareil pour nos vies personnelles, conjugales.
Voilà, et alors l'autre personnage, si je puis dire, qui représente justement le modèle plutôt de docilité à l'esprit, mais masculin, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, on en parle relativement peu dans la tradition romaine, et pourtant, c'est un trésor de notre foi commune que l'Église orientale a plus développé. Jean-Baptiste, c'est le héros, comme tu dis Alex, mais masculin, qui a annoncé le Christ, qui a donné sa vie pour cette annonce, et qui, évidemment, pour nous, est d'autant plus, je dirais, un témoin privilégié, qu'il est mort à cause de la vérité de sa parole sur un problème d'adultère.
Ah mais
et voilà, et c'est parce qu'il a dénoncé l'adultère d'Hérode avec Hérodiade, qui avait pris la femme de, enfin, parce que Hérode avait pris la femme de son frère, que, à ce moment-là, il a été condamné, et que, par stratagème, Hérodiade a réussi à le faire assassiner.
Il a un double ministère. Il a annoncé le Messie. Mais son martyr, c'est un martyr, non pas du Messie, c'est un martyr de la confession de foi dans la valeur du mariage. Et ce, à double titre. Comme tu l'as dit, il fut emprisonné car il dénonça l'adultère d'Hérodiade avec Hérode, et il fut décapité en raison d'un deuxième péché non moins grave, de la convoitise passionnelle quasi incestueuse de ce même Hérode pour la fille d'Hérodiade, qui dansa jusqu'à lui en faire perdre la raison. Et c'est en raison de cela qu'Hérode a fait une promesse complètement insensée et qu'il a bien dû honorer la promesse qu'il avait faite et apporter la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Donc c'est le martyr, le témoin, le héros du mariage tel qu'il est inscrit depuis les origines. Donc nous avons vraiment, en Marie tel que nous l'avons présenté, mais aussi en Jean-Baptiste, deux très grands témoins. Hein, Jésus dira de Jean-Baptiste que c'est le plus grand. C'est le plus grand des enfants des hommes, et pourtant c'est le plus petit dans le royaume des cieux. Voilà, mais c'est le plus grand des enfants des hommes. Voilà, donc c'est vraiment un saint qu'il chérit, et celui-là, depuis les origines, il n'y a jamais eu un tel martyr, témoin du mariage.
Ouais, alors de la même façon que Marie avait aussi prophétisé sur ce vin qui allait être livré, Jean-Baptiste lui a prophétisé sur l'agneau, le pain, le corps qui allait être livré. Donc l'un et l'autre, chacun dans son charisme, va prophétiser sur ce que le Christ va changer dans notre vie. La femme est plus tournée vers l'amour, symbolisée par le vin. L'homme plus tourné peut-être vers la connaissance, vers les choses qui s'explicitent, plus tourné vers le pain. Mais l'un et l'autre sont là pour, chacun à sa façon, éclairer ce mystère de salut que le Christ vient réaliser dans nos vies. Et c'est en ce sens-là que vous retrouverez, si vous avez le temps de contempler les icônes, par exemple, dans les églises d'Orient, à côté du Christ, de part et d'autre, on trouve la Vierge Marie et Jean-Baptiste.
Qui sont comme un peu les archétypes de l'homme et de la femme, et qui nous sont si précieux dans notre ministère en tant que couple marié. Voilà, c'est pour boucler cet évangile sur Cana, faire un dernier parallèle Maud, avec justement cette renaissance du vin nouveau, du vin capiteux, du vin de la noce, avec effectivement l'espérance de la Pentecôte. Car Maud, qu'est-ce qu'il est dit à la Pentecôte? Le don de l'Esprit Saint?
Ouais, il n'en revenait pas. Tout le monde était stupéfait, étonné. On croyait même qu'ils avaient bu plus que de raison.
Voilà. Reprenons cela, l'analogie évangélique du vin de Cana. Voilà. Ce parallèle entre don de l'Esprit Saint dans notre couple, et effectivement de dire, mais ils sont pleins de vin.
Oui, parce qu'on parle même du vin de l'ivresse de l'Esprit qui est donné par cette effusion de l'Esprit que nous pouvons vivre dans nos vies quand nous avons laissé le Christ agir.
Voilà, en tout cas c'est notre prière, notre intercession auprès du Seigneur pour vous, pour chacun de vous, chacun de vos couples, pour que vous puissiez grandir dans cette ivresse de l'Esprit Saint qui est en crescendo et apporter un témoignage au monde qui au contraire vit une telle détresse de voir l'amour tôt ou tard tomber et se dessécher. Que le Seigneur vous bénisse en toutes choses et à la semaine prochaine.
The intimate friendship of the Holy Spirit.